Première partie, les tables tournantes de Jersey. Section 1, les faits. Chapitre 1er, avant les tables tournantes. Sommaire. Hugo à Jersey. Les lieux. Les compagnons de solitude. Conversations et lectures. Visite de Madame Girardin à Jersey. Les tables tournantes de Jersey. Non loin de Saint-Hélier, la capitale de l'île de Jersey, s'ouvre une étroite petite vallée où s'engouffrent les flots à la grande marée et les vents en toute saison. En 1852, le site était désert. Seule, blottie dans ce renfoncement, une maison frileuse, toute blanche, marine terrasse, c'est là que Victor Hugo, exilé du 2 décembre, reposait comme enseveli. Ni fleurs, ni couronne. Ce sol désolé s'excusait sur la brise marine de n'avoir pas de verdure. Pour égayer le paysage, un dolmen tout proche, un cimetière voisin. Ce cimetière rappelait au poète une autre tombe, près d'un autre rivage. Il n'y avait pas encore longtemps, à Villequier, des flots pareils à ceux d'ici, des vents semblables, lui avaient ravi sa fille aînée, celle qui est restée en France, comme il l'appelle, dont l'absence est doublement sentie dans cet isolement de l'exil, et qu'il ne nomme pas autrement, comme si de nommer seulement Léopoldine, c'eût été soufflé une cendre ardente. De quelque côté que se tourna l'exilé, sa pensée ne rencontrait que des suggestions de force, d'effroi et de deuil. Là-bas, l'océan, partout, la tempête. Et quand, par hasard, ses grandes voix se taisaient, c'était le silence, encore plus inquiétant, de ce dolmen et de ses tombes. Jersey dort dans les flots, ses éternelles grondeurs. Les rocs semblent frappés d'attitudes rêveuses. Dans leurs antres, ainsi qu'aux fentes d'un pressoir, l'écume à flots bouillonne et luit quand vient le soir. La forêt jette au vent des notes sibyllines, le dolmen monstrueux songe sur les collines. L'obscure nuit l'ébauche en spectre, et dans le bloc, la lune blême fait apparaître le Moloch. Les quatre vents de l'esprit, le livre lyrique, chapitre 14, 8 octobre 1854. L'air sanglote et le vent râle, et sous l'obscur firmament, la nuit sombre et la mort pâle se regardent fixement. Ibide, chapitre 21. Il avait d'autres compagnons de solitude, heureusement. Faut-il dire heureusement? La colonie étrangère de Jersey formait en vérité le milieu le moins folâtre qui se pût imaginer. Elle se composait surtout d'exilés politiques. Toutes les révolutions, au sens contraire, qui, vers 1848, avaient agité le continent, avaient déversé dans l'île leur contingent de bannis. On en comptait plus de 300. Par certains côtés, leur assemblée tenait du rassemblement et leur rassemblement du ramassis. Toutes les opinions, même les respectables, à condition qu'elles fussent extrêmes, y étaient représentées. Tout frémissant d'ardeur inemployée, ils se mouraient d'inaction et de nostalgie. Surtout de nostalgie. Divisé par tout le reste, il ne faisait bien et à la fois que le seul geste qu'il étendait, plein de regrets, vers leur patrie. Ils étaient unis seulement dans les pleurs, et la tristesse contagieuse de leur présence à Jersey y renforçait encore la mélancolie des choses. Mais Hugo les voyait peu, ou ne les voyait pas. Parmi ceux qu'il accueillait le moins rarement, il nous faut signaler ici, pour l'état d'esprit qu'ils apportaient à Marine Terrasse, ou qu'ils y entretenaient, un petit groupe de doux rêveurs que leurs idées ou leurs manies apparentaient aux philosophes spirites. Le Saint-Simonien Pierre Leroux, son jeune disciple Philippe Faure, une émigrée russe, Madame Engelson, le futur communard Alix, et Pelleport, le futur gérant du Rappel. Philippe Leroux admettait l'immortalité de l'espèce humaine au moyen d'une série de renaissances personnelles et de réincarnations successives. Philippe Faure assurait quant à lui et avec une conviction profonde qu'il avait gardé le souvenir de ses propres existences antérieures. Il se rappelait fort bien, par exemple, avoir assisté à la crucifixion de Jésus-Christ et il décrivait par le menu les émotions que ce spectacle lui avait fait éprouver. Madame Engelson, qui avait suivi son mari en exil où il était mort, causait journellement avec son esprit au moyen d'une aiguille mobile qui se mouvait sur un pivot, au-dessus d'une planchette ronde, portant à son pourtour les lettres de l'alphabet. Alix, lui, avait inventé les escargots sympathiques. Pelleport, enfin, plus éclectique dans sa pitié, s'attendrissait indistinctement sur tous les êtres frêles, petits enfants, petits oiseaux, petites fleurs. Les conversations avec de tels visiteurs prolongeaient chez le poète les suggestions de ses lectures. À tout prendre, ce grand liseur lisait peu. Il aimait lire, mais il lisait surtout ce qu'il aimait. Il se montrait aussi difficile en livre qu'en ami, et à travers leurs paroles ou leurs lignes, c'était encore lui-même qu'il cherchait. Elle n'en est que plus significative la faveur qu'il marque, vers 1853, à la littérature occultiste, en attendant que paraisse Allan Kardec, dont il se procurera toutes les productions. Il s'intéresse à des ouvrages au titre suggestif. Dupoté, La magie dévoilée ou la science occulte, impression Pommeret 1852, Étude de M, des esprits et de leurs manifestations fluidiques, Paris 1853, Alcine Morin, Comment l'esprit vient aux tables par un homme qui n'a pas perdu l'esprit, Librairie Nouvelle 1853, Jean Reynaud, Terre et ciel 1854, Victor Hennequin, mort en pleine folie en 1854, le cerveau dérangé par les tables tournantes, Religion, Paris, Dantu, 1854. Alexandre Veil, Les mystères de la création, Paris, Dantu, 1855. Visiblement, ces auteurs ténébreux exercent sur lui une attirance toujours obéie. Il leur sait gré des rêves spirites qu'il lui verse à profusion et dont il accueille l'ivresse avidement. Sombre et troublante liqueur qui, s'insinuant dans son âme trop bien disposée à la recevoir, va communiquer à son œuvre comme un air de fièvre et de délire. Mais j'anticipe, et j'excède. D'autres causes que son entourage, son tempérament et ses lectures contribuèrent à développer en Victor Hugo le mal dont il est atteint à partir de 1853. Il n'a pris dans les livres que le credo spirit. Son initiation pratique à la foi spirit s'explique par une influence plus immédiate et fortuite. « Les tables, écrit Victor Hugo le 4 janvier 1855 à Madame de Girardin, nous disent des choses surprenantes. Nous vivons dans un horizon mystérieux qui change la perspective de l'exil, et nous pensons à vous à qui nous devons cette fenêtre ouverte. » Prenez garde à l'aveu de cette dernière phrase. « Et nous pensons à vous à qui nous devons cette fenêtre ouverte. » Il y est fait allusion au rôle joué par Madame de Girardin dans l'introduction à Marine Nasse de la pratique des tables tournantes. On fit en effet tourner et parler des tables à Jersey en 1853, 1854 et 1855. Des procès-verbaux de ces séances, écrits de la main d'Adèle Hugo et annotés par le poète, furent recueillis sur place et sous la dictée même des tables. Ce n'est que sur l'ordre express des esprits que leur publication fut différée jusqu'après la mort des principaux témoins. Déjà, dans Les miettes de l'histoire, en 1863, Auguste Vaquerie nous avait donné un premier récit de ces fameuses séances auxquelles il avait participé, et faisant allusion aux procès-verbaux, il disait que, publié un jour, il proposerait un problème impérieux à toutes les intelligences avides de vérités nouvelles. Désormais, il nous est loisible d'interroger le précieux document. Les procès-verbaux ont été en effet édités récemment par Gustave Simon, exécuteur testamentaire de Victor Hugo. Cet ouvrage capital, qui a pour titre « Les tables tournantes de Jersey », sera ma référence principale. Si un tel témoignage avait besoin d'être complété çà et là, j'en appellerai surtout aux souvenirs de Vaquerie et aux lumières qui nous viennent de l'œuvre même de Victor Hugo.